Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty.
Salut Guillaume.
Bon bah voilà, Nick Diaz va revenir face à Kamaru Usman. On va vous expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée, surtout pourquoi bah ça a l'air de sortir un peu de nulle part cette histoire là. Donc il a dit ça au micro de TMZ. On va voir ouais. Tout ça ensemble Big Rusty.
Oui,
tranquillement. Et puis une petite revue d'actualité parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Ouais. Générique Big Rusty. Swear.
Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
Donc oui, voilà Nick Diaz qui avait sorti une performance assez triste face à Robbie Lawler. Il y avait eu toute la Fight Week. Ross va revenir là-dessus aussi, où on s'était inquiété au fil des jours. Il y avait eu aussi, même avant la Fight Week, le fait qu'il y ait un changement de catégorie. Ça devait se passer en welterweight. Finalement, ça avait été basculé chez les middleweight. Au final, Nick Diaz qui s'était incliné par TKO, mais un TKO plus parce qu'il n'en voulait plus qu'un véritable, on va dire, arrêt de l'arbitre à proprement parler, parce que le combattant ne se défendait plus de manière intelligente. Donc voilà, assez inquiétant pour Nick Diaz. Et là, finalement, il veut revenir. Et il veut revenir face à Kamaru Usman.
Mais alors, en vrai, on va baliser, parce que pour être tout à fait honnête, ça va être intéressant parce que ce podcast sur Nick Diaz va nous permettre de dire des choses qu'on a appris dernièrement sur lui et sur son combat. Mais pour cette news-là, en fait, quand vous allez voir la vidéo de TMZ, donc qui est le média américain qui a toujours ses petites news, etc. En fait, il est dans une exposition, donc en gros une fan expo, où il signe des autographes, il prend des photos avec les gens. Et en gros, t'as un mec de TMZ qui arrive comme ça. Lui, il venait pas pour une interview, rien du tout. En fait, c'est le gars de TMZ qui vient alors que lui, il est pendant son expo, il est avec les gens et
à
tout,
la
il
volée.
Lui pose des questions. Enfin, voilà, exactement, à la volée. À la volette, pour ceux qui connaissent. Et en gros, il est là et TMZ arrive et lui pose des questions. Et donc, en fait, en vrai, là, on va en parler parce que ça va nous permettre de dire des trucs intéressants. Mais en vrai, c'est pas comme si c'était Nick Diaz qui avait fait un post ou qui avait fait une interview officielle en disant « Maintenant, je veux revenir, je veux… » Le mec lui pose la question, lui dit « Bon, bah alors, le retour, machin. » Il dit « Bah ouais, j'aimerais bien revenir en 2022. J'ai 38 ans, je me vois pas affronter des petits jeunes. Bah moi, je suis chaud pour le titre. Je me dis que je peux le gagner. J'ai envie de combattre Usman, tu vois. » Donc, en fait, quand tu le prends dans le contexte, c'est pas non plus comme s'il était fou, tu vois. C'est simplement, le mec lui pose la question, bah, il répond honnêtement, bah oui, si tu peux combattre, honnêtement, je préférerais combattre pour le titre, je pense que je peux le battre. Ce qui a du sens, en fait, c'est un compétiteur, il se dit que. Et alors, maintenant qu'on peut entrer dans le dur, il a 38 ans, Nick Diaz, mais surtout, alors, il y a, c'est un message de son barbeur, de son coiffeur, il y a peu de temps, mais ils se suivent l'un l'autre sur Instagram. C'est un truc qui était passé sur Reddit MMA et les mecs avaient été vérifiés. En gros, effectivement, c'est bien le barbier Nick Diaz et qui avait dit en fait que pendant, je crois que c'est 3 semaines avant le combat contre Robbie Lawler, en fait, il n'avait pas pu s'entraîner ni rien faire Nick Diaz parce qu'il était malade. Et c'est pour ça qu'il était arrivé complètement hors de forme et qu'il avait, techniquement, c'est Nick Diaz, donc c'est juste somptueux, mais physiquement, voilà, c'était clairement une contre-performance en termes de la manière dont il était arrivé.
Et puis surtout, la shape était bien différente de celle qu'on avait vue précédemment sur les réseaux sociaux, donc c'était, même au-delà de ça, on sait que les frères Diaz, ils sont jamais justement hors de forme, et le fait qu'il arrive comme ça, même pour nous, c'était très surprenant, parce qu'on était en mode, bah, littéralement, le mec, ça faisait, donc, dernier combat, c'était en 2015, janvier 2015, face à Anderson Silva, il était tout le temps in shape, et là, comme par hasard, la semaine de combat, le gars arrive, on se dit, enfin, ça n'avait aucun sens, littéralement.
Ouais, voilà, ça n'avait aucun sens. Enfin, on le répète, mais les gens le savent maintenant. Les frères Diaz, ils s'entraînent constamment. C'est des triathlètes. Ils font très attention à ce qu'ils mangent. Ça n'avait vraiment pas de sens qu'il arrive comme ça avec le dad bod et tout quoi. Donc, en fait, le contexte, c'est ça pour la déclaration de Nick Diaz. Et donc, en fait, lorsqu'on le sait, et donc lorsqu'on sait que, par contre, le fait qu'il revienne, ça me choque un peu moins. Là, si vraiment il revient en forme et si effectivement son dernier combat c'était vraiment il est venu parce que c'est un guerrier, parce que même s'il a été malade, qu'il n'avait pas pu s'entraîner du tout, bah il voulait quand même ne pas décevoir, il voulait quand même peut-être aussi bah toucher toucher l'argent du combat, mais c'est pas du tout de manière dénigrante que je le dis, c'est aussi son gagne-pain, ça fait partie aussi, donc enfin énorme respect quoi pour lui, mais là, effectivement, s'il revient en 2022, bon alors évidemment jamais dans un milliard d'années on lui filera le titre, ou alors je mange cette lumière, tu vois. Mais en soi, qu'il revienne pour un combat de haut profil et qu'il revienne s'il est effectivement un en pleine possession de ses moyens et deux physiquement apte et que bah du coup il lui arrive pas à la tuile qui lui est arrivée dernièrement. Nous, ce qui nous faisait super peur, c'était par rapport à l'interview avec Ariel Helwani où il avait l'air complètement perdu. Maintenant, il a l'air d'avoir un petit peu retrouvé tout ça. Il a l'air de, enfin, ça a l'air d'être le Nick Diaz entre guillemets normal qu'on connaissait. Pour autant, je sais pas si j'ai quand même envie de le voir parce que de toute façon, ça a l'air inévitable. C'est son manager l'avait dit aussi. Maintenant, Nick Diaz le dit, donc ça a l'air inévitable qu'on va probablement le revoir. Enfin, donc ça a l'air inévitable qu'on va le revoir en fin 2022. Mais voilà, ce sera pas contre Kamaru Usman, voilà, quoi que veuille Nick Diaz, bien sûr, mais ce sera probablement contre quelqu'un de très haut profil, parce qu'effectivement, en revanche, c'est comme ça d'ailleurs que commence le mec de TMZ la vidéo avec Nick Diaz, toi et ton frère, vous êtes parmi les profils les plus aimés des fans, de manière générale, quoi. Et d'ailleurs,
Mais
juste,
contre
je
qui du
finirai.
coup tu le mets, toi?
Nick Diaz?
Ouais.
Bon, ouais, tu sais, genre bah, Jorge Masvidal ou enfin un truc comme ça, tu vois, un
Ouais.
truc qui draine quand
Oui,
même
c'est
pas
vrai
mal
qu'à
de
ce
gens.
moment-là de leur carrière, ouais, moi j'aimerais bien le mettre contre Masvidal. Je pense que ce serait pas mal
Ouais.
parce que sur le papier, Masvidal doit s'imposer, puis comme ça lui permet un petit peu de souffler après bah, deux fois de suite Kamaru Usman, puis Colby Covington. Et si
Puis le
Nick Diaz
scandale,
venait
ouais.
à s'imposer, bah directement là tu peux te dire bon bah ça y est, on a quelqu'un qui est de retour, c'est un accident contre Robbie Lawler. Et là effectivement, les combats face aux top contenders auraient du sens. Donc ouais, non, c'est vrai que ce serait pas mal ce combat-là. Et puis il y a l'histoire. Comme tu l'avais dit, oui, il va essayer de venger son frère, donc c'est pas mal aussi.
Ouais, voilà. En vrai, bon, mais tout ça, moi, ça me paraît un peu froid maintenant. Enfin, dans le sens, tu sais, c'est, on n'y pense plus vraiment.
On n'y pense
Et
plus
même,
vraiment parce que la machine n'est pas encore activée.
bah peut-être, mais en fait, je sais pas, parce que 38 ans quand même. Et 38 ans en welterweight, quoi. Je suis, je me, c'est pas que je me déchauffe, mais c'est que voilà, plus le temps passe et moins j'ai envie de revoir quelqu'un, un combattant pour lequel le temps a sacrément passé, tu vois. Mais bon, bah on verra bien.
Oui,
Mais
s'il doit
juste.
revenir, ah là, je te rejoins complètement, c'est s'il doit revenir, on aimerait que ce soit ça, mais moi, comme toi, je pense, j'ai pas envie de le voir revenir, Nick
Ouais,
Diaz.
voilà. Surtout là de le revoir à la Fan Expo, en fait. Enfin, vraiment, tu sais, il. Voilà, je pense que déjà, il était à facile, ouais, 85-90 kilos bien tapé, tu vois. Il était vraiment, il était bien assis, quoi. Enfin, il était enfin, tu vois, bien assis dans son corps, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, voilà, j'ai pas très envie de le revoir non plus. Mais juste, c'est un dernier truc, mais tu vois, c'est pour ça que aussi qu'on aime les frères Diaz, et c'est un putain de détail. Hein. Vraiment, je sais que je m'accroche à un détail, mais en gros, si vous allez voir la vidéo de TMZ, il y a un truc que j'ai trop kiffé qui se passe dans la vidéo. En gros, le mec de TMZ lui pose des questions et en gros, Nick Diaz lui répond. Et en gros, il y a des mecs en même temps qui viennent prendre des photos, tu vois. Donc, mais du coup, Nick Diaz, voilà, c'est Nick Diaz, il est dans son truc. Donc, en fait, il prend les photos avec les mecs, mais en même temps, il parle au mec de TMZ. Donc, en gros, il regarde même pas les mecs, tu vois, avec lesquels il prend les photos. Jusqu'à ce qu'il y a une petite fille qui arrive et qui demande une photo. Et là, alors que juste avant, il faisait même pas gaffe. Et là, à ce moment-là, il la prend par l'épaule, il la regarde et il sourit à la photo et tout ça. Tu vois, c'est vraiment con. Mais ça, c'est ce qui fait que c'est un de mes combattants préférés, un de mes humains préférés aussi, tu vois. Au-delà de son histoire, enfin, qui le rend forcément sympathique, mais juste ce détail-là, tu vois. Genre, bah ouais, il fait ses trucs, il est un peu dans son monde et tout, jusqu'à ce qu'il y ait un enfant ou une gamine et tout. Et là, bah, il lui donne full attention. Enfin, tu vois, c'est vraiment kiffant, je le kiffe. Enfin, voilà, c'était la parenthèse, Nigas, quoi.
La parenthèse Nick Diaz, ce qui est cool aussi, c'est que là prochainement, ça a été annoncé par l'UFC, on va voir Brian Ortega, Yair Rodriguez, donc toujours pas de Khabib Nurmagomedov, malheureusement. Mais bon.
Mais justement, bah en fait, j'ai trouvé une chaîne sur YouTube et en gros, c'est un gars qui traduit toutes les vidéos en russe vers en anglais. Le problème, c'est que du coup, je suis obligé de lui faire confiance parce que je sais pas ce qu'il raconte
Non,
pour
mais
de vrai, déjà,
c'était, je
mais.
crois qu'il allait poursuivre ses études, c'est ça là, Magomed Sharipov, non?
Ah, bah moi, du coup, dans la vidéo que j'ai
Vas-y.
vue qui est parue il y a, je crois que c'était un mois, en gros, bah, c'était un gars qui était un de ses proches de Magomed Sharipov et en fait, qui confirmait tout ce qu'on se disait et qu'on supputait jusque-là, c'est-à-dire qu'en fait, ça l'intéresse plus, en fait. Dans le sens, bah voilà, il a fait ça toute sa vie, toute sa vie à partir de genre 5 piges, c'est ce qu'il a fait, et maintenant en fait ça le saoule. Genre ça ne l'intéresse plus, il est plus motivé pour. Et donc le gars, ce proche en question, disait moi je pense qu'on ne le reverra pas, quoi.
Et voilà. Et donc du coup là on aura Brian Ortega contre Thiago Rodriguez. Moi je trouve que c'est très bien pour les deux adversaires, enfin pour les deux adversaires, les deux futurs adversaires, surtout les deux hommes, parce que aussi bien Brian Ortega que Thiago Rodriguez, mine de rien, honnêtement, depuis quoi, 2016-2017, les gars ne sont pas très actifs dans cette catégorie featherweight, tu vois, ça fait partie de ces gars qui, et moi ce que je trouve dommage, c'est qu'à la manière d'un Conor McGregor, tu vois, qui est toujours 9e du classement lightweight alors qu'il n'a pas gagné depuis novembre 2016 face à Eddie Alvarez, on a des gars qui sont certes très forts et c'est des conditions complètement différentes, mais qui vivent sur ce qui s'est passé auparavant, tu vois, malheureusement. Et donc, on les voit une fois tous les ans, une fois tous les deux ans, et je trouve que c'est pas assez par rapport au Calvin Kattar, par rapport à tous les mecs qui essayent de pousser un petit peu derrière. Et donc là, le fait qu'ils, un, s'affrontent pour qu'on sache vraiment où est-ce qu'ils se trouvent, parce que vous regardez Yair Rodriguez ou Brian Ortega, il y a eu clairement un bump entre le moment où ils ont affronté des contenders, ensuite le combat contre Max Holloway, ou de très très haut profil pour Yair Rodriguez. Donc c'est pour ça que je trouve que c'était un petit peu dommage pour eux. Là, on a un combat qui, à mon sens, va vraiment permettre, pour l'un comme pour l'autre, de savoir où il se trouve dans cette catégorie. Parce que ce soit Brian Ortega ou Yair Rodriguez, bah moi je sais pas vraiment, tu vois. Comme ça fait un très longtemps qu'ils ont pas affronté des gars, enfin qu'ils ont affronté des mecs qui étaient autres que top level.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Voilà, et donc là, je pense que c'est très bien parce qu'on va pouvoir savoir qui est en dessous de Volkanovski, Max Holloway, le troisième homme de cette catégorie, et clairement, parce qu'on n'a jamais eu le choc pour l'un comme pour l'autre face à Zabit Magomed Sharipov, parce que pour le moment, je sais pas ce que t'en penses toi, je mets tous les autres, à part ces quatre-là, donc Brian Ortega, Max Holloway, Yair Rodriguez et Alexander Volkanovski, je mets tout le monde en dessous.
Ouais, moi aussi, je pense. Mais donc, effectivement, en fait, déjà, ce qui est bien, c'est que ce combat, honnêtement, il va être ultra spectaculaire, je pense. Parce que les deux gars ne savent pas combattre autrement. Et ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, c'est vraiment.
Ils auraient dû le faire au Mexique. Ils auraient dû le faire au Mexique.
Oh !
Ils auraient dû le faire au Mexique.
T'imagines ? Attends, Brian Ortega. Oui, il est de. Ben oui, en plus, je réalise. Oui, il est de descendance mexicaine, donc ça aurait eu effectivement encore plus de sens. Mais ouais, non, c'est vrai, putain, ça aurait été fou. Après, ils ont dit qu'ils le faisaient où, à Vegas?
Je crois que c'est à Long Island.
Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Eh ben ouais, mais donc déjà le combat sera ultra spectaculaire, ce qui déjà, avant même de rentrer dans quoi que ce soit, enfin, ça fait plaisir de se dire, ok, on a ce combat-là qui arrive, et qui va non seulement être spectaculaire parce que les gars ne savent qu'aller de l'avant et être des finisseurs, mais en plus, c'est des techniciens incroyables. Et en plus de ça, bah effectivement, ça va nous permettre de voir où ils sont. Mais sachant que en vrai, pour Yair Rodriguez, quand tu combats Max Holloway, tu peux savoir où t'en es quand t'es capable de faire presque jeu égal avec lui, quoi. Donc en fait, en soi, moi, je suis plus curieux pour par rapport à Brian Ortega que Yair Rodriguez. Parce que j'ai l'impression que Yair Rodriguez, c'est un peu comme Denis Cruz, dans le sens, le mec, tu le vois, c'est comme une éclipse, quoi. Tu le vois genre une fois tous les ans ou tous les deux ans, mais à chaque fois qu'il vient, le mec explose tout, quoi. Enfin, ou alors il fait des combats de demi-dieu. Donc en soi, je me fais pas forcément de soucis pour Yair Rodriguez, mais c'est plutôt pour Brian Ortega, parce que bah, du coup, on se souvient qu'il y avait eu cette coupure où il avait donc changé de camp d'entraînement, où il avait arrêté de s'entraîner que dans son garage, etc. Il était revenu, il avait fait un truc contre Corian Zombie qui était une masterclass. Et ensuite, il a eu son combat contre Volkanovski, mais c'est contre Volkanovski, où il a été complètement plié, en fait, quoi. Il s'est fait plier par Volkanovski et c'était compliqué à regarder, mais on n'a pas pu du coup savoir grand chose à part que voilà, il s'est fait hypnotiser, quoi, grosso modo. Donc en fait, je suis plus curieux par rapport à Ortega, parce qu'au final, Ortega, c'est vrai que ça donne vraiment cette impression qu'il est au-dessus du lot quand c'est pas les quatre, enfin quand c'est pas les trois devant lui, mais quand c'est les trois devant lui, ben t'as l'impression que Max, c'est vraiment très compliqué, quoi, parce que ce soit la performance contre Volkanovski ou celle contre Max Holloway, c'est pas qu'il a pas existé contre les deux, mais enfin c'était vraiment, il y avait un monde d'écart quoi. Donc moi c'est plutôt pour Brian Ortega que j'ai très hâte de voir, mais dans tous les cas, et je me fais un peu de soucis même pour être honnête.
Ouais, ça va être compliqué. Bah le problème de Brian Ortega, c'est vrai, quand il affronte l'élite de l'élite de l'élite debout et que les mecs sont aussi dans leur déplacement à un niveau qui est tel que c'est très très difficile pour lui de pouvoir jouer sur ses opportunités en soumission au sol, c'est un petit peu difficile parce que pour l'instant il a pas encore su débloquer le jeu, de réussir à amener les gars autre que par l'opportunité, on va dire, dans son domaine de prédilection. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc, c'est là où moi aussi j'ai peur, et que malheureusement, contre Yair Rodriguez, sur 5 rounds, je pense que ça peut être un petit peu difficile pour lui. Même si, et c'est là que ça peut, d'après, je sais pas ce qui s'est passé lors de son camp d'entraînement à Brian Ortega, mais c'est vrai que s'il arrive, par contre, à amener Yair Rodriguez au sol, on se souvient tous ce qui s'était passé contre Frankie Edgar, et là, ça peut être vraiment intéressant, mais ça va être le gros challenge. S'il n'arrive pas à mettre Yair Rodriguez au sol, il peut passer 25 minutes très 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 longues.
Ah bah en enfer. Mais après c'est vrai que même contre Volkanovski, hein, il peut passer 25 minutes en enfer, sauf que s'il se retrouve 3 secondes au sol, il peut terminer Yair Rodriguez. C'est pour ça que c'est vraiment excitant comme combat quoi. Mais donc ouais, non, je suis très 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 chaud.
Et puis surtout moi ce que j'espère aussi, c'est que les combats pour Brian Ortega, le combat contre Max Holloway Alexander Volkanovski, malgré tous les progrès qu'il a fait en boxe anglaise, tu vois, qui se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux, tu vois. Et j'ai pas du tout envie que, même si, ok, il arrive à mettre des bons coups, il a un bon jab, vous avez vu ce qu'il avait fait face au Korean Zombie, et puis même contre Max Holloway, il a eu des bons moments, mais globalement, à vouloir échanger face à des mecs qui ne font que ça depuis le début de leur carrière, vous allez vous retrouver du mauvais côté à la fin du combat, tu vois. Et moi, j'ai vraiment envie qu'ils se disent, bon bah ok, je suis bon debout, mais là où je suis le plus dangereux, c'est vraiment en JJB, c'est là que j'arrive, quand il a commencé sa carrière d'invaincu, c'était ça, c'est le gars perdait jusqu'à ce qu'il gagne, et par soumission, parce qu'il était hyper agressif dans le domaine, et j'aimerais bien, moi, qu'il revienne à ça, tu vois, quitte à se dire, à être un petit peu moins spectaculaire, et que les fans, tu vois, se disent, bon bah ok, on aimait bien les guerres qu'il faisait en striking, mais le problème, c'est que on verra ce qui se passe après, mais je pense que les combats contre Max Holloway et contre Volkanovski, ça peut lui coûter très très cher, tu vois, dans le futur, quoi. Et puis déjà là, contre Max Holloway, il a perdu quoi, 2 ans quasiment de sa carrière à cause de ce combat-là. Donc bon. Et puis même Volkanovski, c'était l'année dernière, c'était en septembre de l'année dernière, donc ça fera aller 10 mois quasiment. S'il avait pas pris autant de dégâts, je pense qu'il serait revenu un peu plus tôt.
Ouais, non, c'est clair. C'est vraiment un peu. J'ai l'impression qu'il est un petit peu dans cette catégorie maintenant, Brian Ortega, des Gustafsson, des Uriah Faber, ou enfin, tu vois, des éternels seconds un peu, quoi. On va voir.
Ouais, à voir. Non, mais après, comme tu as dit, il avait changé déjà beaucoup de choses. Donc là, s'il peut se recentrer encore un petit peu plus, ça pourrait être intéressant. Big Rusty, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures.
Ok. Bah non, mais parce que moi, je pensais qu'on allait faire une petite revue d'actu vite fait, tu vois.
Tu voulais parler de quoi d'autre ?
Y a aussi Armen Saryukov contre Matheus Gamrot. On n'est pas forcément obligé de s'étendre dessus, mais simplement le dire, le notifier, parce que ça va être un combat aussi très intéressant pour le futur de la catégorie lightweight, parce que les deux sont des monstres.
Et premier main event pour les deux, moi je trouve que c'est une très 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 bonne nouvelle pour le MMA européen.
Ah ouais, grave, parce que franchement, enfin vraiment, il y a peu de potentiel futur champion, quoi. Enfin, à voir comment évolue la catégorie, mais les deux sont tellement talentueux que vraiment c'est très intéressant qu'ils fassent ce combat-là. Et il y a aussi une nouvelle qui est très intéressante, c'est pour la catégorie middleweight. Je sais pas si tu as été voir un petit peu la Edmen Shahbazyan, tu sais, l'adversaire, le dernier adversaire de Nassour, de Nassourdine Imavov.
Il change tout.
Qui est en fait, ouais, qui change tout. Et c'est vraiment très intéressant. Et pour faire très très vite une revue du coup de ça, mais en gros, il est arrivé à l'UFC extrêmement jeune par le Contender Series. Je crois qu'il avait 21 ans, un truc comme ça, ce qui est vraiment en plus pour des middleweight. Enfin, c'est assez jeune, quoi. Il a eu une montée qui était vraiment fulgurante jusqu'à ce qu'il prenne un stop sur 3 adversaires d'affilée. Il y a eu Bronson, il y a eu Nassour et je ne sais plus quel était le dernier.
Et oui, et notre ami qui va bientôt affronter Darren Till.
Ah, Jack Hermanson.
Ouais, complètement.
Ok, ouais, voilà, c'était ça. Et en fait, il s'est rendu compte lui-même, Edmen Shahbazyan, que c'est aussi parce qu'il y avait des limites dans son camp d'entraînement Et en gros, là, il a dit que dans une interview récente qu'il avait tout changé. Mais c'est intéressant la manière dont il phrase le truc parce qu'il dit « Moi, j'ai vraiment… » En gros, il dit « I have no ill will towards son entraîneur Edmond Shahbazyan et Ronda Rousey qui étaient ceux qui s'occupaient de sa carrière jusque-là. » Donc, ça veut dire qu'en gros, eux ne leur reprochent rien. Mais la manière dont il tourne le truc, c'est vraiment, c'est-à-dire que j'ai l'impression que par contre, eux ont vraiment le seum. Et la raison pour laquelle ils l'ont probablement, c'est que donc il s'en va complètement, Edmond Shahbazyan, parce qu'il a eu l'impression qu'il atteignait un palier. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en parle sur le même podcast que Brian Ortega, c'est un petit peu pareil, quoi. Il a un peu la même réflexion et les mêmes mots choisis à propos de sa décision. Parce que, bah, comme pour Brian Ortega, il a eu l'impression dans ses derniers combats qu'il atteignait vraiment un plafond et qu'il ne progressait plus et qu'il n'était plus dans l'endroit où il faut pour avoir vraiment une courbe de progression optimale. Et donc, il a décidé de partir à Vegas. Il va s'entraîner à Extreme Couture et au UFC Performance Institute. Il va être avec Eric Nixik, qui est l'excellent entraîneur aujourd'hui de Francis Ngannou et de bien d'autres combattants. Et ça peut être vraiment intéressant parce qu'il est encore jeune, Edmond Shahbazyan. Il est extrêmement talentueux et avoir un potentiel renouveau. Il dit que non seulement c'est au niveau de son entraînement technique, etc., stratégie, tout ça, mais aussi physique. Donc ça va être vraiment très intéressant et ça prend vraiment quelque chose à cet âge-là. Il est jeune et quand surtout t'as grandi avec ton équipe, donc Edmond Taverdian et Ronda Rousey, t'as grandi avec eux. La loyauté, forcément, on imagine, tu vois, ça a dû vraiment, vraiment le. Ça doit être très compliqué, quoi. Ce sont presque tes mentors, ils t'ont tout apporté, ils t'ont tout donné jusque-là et tu décides de les quitter pour aller autre part. Mais dans ton intérêt, et c'est normal, de sa carrière, de sa progression, etc. Donc, émotionnellement, ça ne doit pas être facile à gérer quand même, de quitter ce camp qui t'a tout donné. Mais il le fait, et vraiment, je suis curieux parce que ça, il y a moyen que ce soit très intéressant, surtout pour quelqu'un qui est arrivé aussi jeune et qui est aussi talentueux dans la catégorie, quoi.
Affaire à suivre, en tout cas, Big Rusty. On suivra ça avec attention pour Edmond Shahbazyan. 3 défaites attention consécutives, malheureusement, pour lui. Big shout out à Sweet Potain. Yeah. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC. Regardez-moi ça, sponsor de la sueur. À très très vite pour de nouvelles aventures. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.